radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 1h.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici de Romardèche.
Voici une carte postale. Nous sommes à Sainte-Eulalie, dans l'atelier de Mathieu. Il représente sans doute le dernier artisan losier-couvreur de la montagne ardéchoise. Son travail capte notre attention lorsque nous croisons une maison traditionnelle dont le toit est recouvert de lauzes naturelles. C'est un métier physique avec un savoir-faire peu commun, un engagement pour la conservation d'un patrimoine exceptionnel. Et pour lui, c'était un peu écrit dans son arbre généalogique.
J'étais dans une famille de couvreurs. Mes oncles, en gros, j'ai eu 7 oncles qui étaient couvreurs. Et du coup, mon père, mais depuis tout petit, j'ai appris à poser la lauze de schiste et l'ardoise de Corrèze. Et c'est pour ça, du coup, je suis venu m'installer après en Ardèche. Chez nous, ça, voilà, cette bleue claire, elle vient du côté de Borée. Et chaque lieu avait leur lauze. Alors après, il y a plein de toitures, ils sont mélangés, ils ont mis de la bleue qui avait rien à voir chez nous. Ils trouvaient les lauzes là où ils pouvaient les trouver, quoi. Ah ouais, c'est voilà, ça. C'est tout. Pour ça, en fait, le plus gros du travail, c'est la taille. Après, on est lié au climat. Hein. Quand il fait trop froid, c'est pareil. On ne peut pas la tailler parce qu'elle est gelée, la pierre. Alors, du coup, elle explose. Quand il fait des grosses canicules, ben, la lauze bleue, on ne la tient pas dans les mains. C'est particulier, quoi.
Et les avantages ?
Ben, après, ça dure très, très, très longtemps. On a des toitures, là. Ben, j'en ai une énorme à refaire. Elle date de 1000. La grange date de 1648. Et la lauze est d'origine dessus. Après, il peut grêler, il peut faire du vent, tout ce qu'on veut. Ça ne bouge pas.
Vous savez, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais devenir artisan lauzeur?
Je sais pas, je crois que j'ai pas trop eu le choix. Je sais pas, c'est vrai que ça se pose pas trop, parce que vu que je suis né là-dedans, avec mon père, et mon père les taillait, et avec ma mère, on les calibrait par taille, et j'ai toujours été là-dedans, quoi.
Très tôt, vous avez des outils dans les mains?
Les premiers outils, je devais les avoir, ouais, c'est 7-8 ans. Pour ça, il y en a, ils me disent, mais t'es jeune encore, tu peux en faire. J'ai dit oui, mais j'ai attaqué très très jeune, alors tant que le dos suit, c'est bon, mais il faut s'économiser, quoi.
Pourtant, vous avez vu votre papa faire ce métier qui est quand même très dur, très physique, et ça vous a pas arrêté?
Oh non, non, non. Surtout qu'à l'époque, il fallait les monter à l'échelle. On n'avait pas d'élévateur, tout ça. Et c'est que la dureté du métier, je pense, c'est ce qui nous forme. Alors après, c'est vrai que si j'aurais pas aimé ce métier, je pense que je dois abandonner de suite.
Alors, depuis une paire d'années, Mathieu s'implique dans l'ALC, une association nationale pour former de jeunes losiers. Je vous mets le lien sur notre site internet.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Périgord.
Vous entendez? Envoyez mon corps restressa. Entendez mon cœur stressé de bonheur. Je vais vous le dire, mon cœur palpite. En occitan, nous, on sait palpiter. On est les pros du palpitage. Nous avons une expression qui déchire. Je vous la conseille. Vous êtes face à l'être aimé. Vous ne le ou la connaissez pas. Il ou elle est devant vous. Votre cœur bat la chamade. Dites-lui, mon cœur bat comme le tio d'une zacho. C'est beau, hein? Mon cœur bat comme le tio d'une zacho. Je traduis, mon cœur palpite comme le cul d'un jet. Et là, t'es sûr de faire fondre ton interlocuteur autrice. Son désir s'emballe à coup sûr. Imaginez l'otio d'une zachou, comment il doit remuer sa queue. C'est une belle image, non? Alors c'est pour cela que je parle d'un point G. Le G. Non, elle était trop facile, celle-là. Allez, adieu.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts.
Dauphinoise, Dauphinois, bien le bonjour. Aujourd'hui, Saint-Martin-du-Riage. On m'a conseillé de dire que c'est le plus beau village du Dauphiné. Je le dis donc, Saint-Martin-du-Riage, plus beau village du Dauphiné. Ça n'est pas forcément certain, mais comme mon vénéré adoré, responsable des programmes, y habite, il m'a semblé judicieux de suivre son conseil. Voilà, d'autant que j'ai eu le plaisir de manger chez lui les plus belles saucisses du Dauphiné et le meilleur flan pâtissier du monde. J'exagère à peine. Bon, donc, bref. Saint-Martin-d'Uriage, village idéal, c'est marqué sur le net. Hein. Je rajouterai, comme une île au milieu d'un archipel, dans le coin, tout se touche. En tout bien, tout honneur, bien évidemment. Non, mais calmez-vous. Regardez, il y a Uriage, Saint-Martin-d'Uriage, Saint-Nizier-d'Uriage, le Pinet-d'Uriage, Villeneuve-d'Uriage, le Sonnant-d'Uriage, j'aurais presque envie d'ajouter le Casino-d'Uriage, les Thermes d'Uriage, bref, restons à Saint-Martin pour ne pas nous perdre, ou pour mieux nous perdre dans la verdure et les forêts qui, comme un océan, entourent l'archipel en question. Alors, ce matin, j'ai de la poésie. Enfin bref, voilà, enchaînons. Un grand bonjour aux Saint-Martinois et Saint-Martinoises, doit-on dire les Saintes-Martinoises? Je n'en suis pas sûr, elles ne le sont pas toutes. Ah, et non, et il y a même une sorte de confrérie, dites donc, une tribu, un clan, au joli nom, les Motards en Polaire. Non, vous avez bien entendu, en polaire. Ce ne sont pas les derniers pour la rigolade. Ah non, ils savent rigoler, ils aiment rire. Il faut rire, sinon ça les fâche et polaire se transforme en colère. Ça n'est pas bon. Cette association saint-martinoise est nationale, attention, hein, a pour but, je vous lis la phrase, hein, je vous la lis, hein, de promouvoir et favoriser l'usage des deux roues avec un moteur au milieu. Effectivement, quand on aime la moto, autant avoir un moteur entre les jambes. Ça aide. La moto à Saint-Martin-d'Uriage est presque une religion. Il y a même une sainte vénérée. Oui, c'est sainte Jacqueline. Alors, je dis, l'histoire raconte qu'à 2 mois, sa famille lui aurait acheté un tricycle dont elle aurait immédiatement scié une roue. Et qu'à 12 mois, elle aurait adapté un moteur de machine à coudre sur son engin. Ah oui. Malheureusement, elle aurait oublié que la longueur du fil électrique limiterait sérieusement ses déplacements. Ah ben oui, ça se passe à Saint-Martin-d'Uriage, tout ça. Ben oui, hein. Belle ambiance à Saint-Martin-d'Uriage. Pas mal de gens sympathiques, mais un peu marteau tout de même, hein. Dauphinois, en quelque sorte. Et puisque vous le savez tous, je vous le répète, mais vous le savez tous depuis le temps que je vous le répète et que je vous le dis. En Dauphiné, on n'est pas des quand même.
Ici, actu local, musique et bonne humeur.
Tainted love.
oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ICI Béarn Bigorre.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Affaires classées, le podcast. Nous consacrons cette semaine, cet épisode, au célèbre compositeur basque Maurice Ravel, le père du boléro. Savez-vous que cette œuvre magistrale remonte à 1928? Depuis son décès en 1937, d'étranges appétits se sont aiguisés autour de la manne des droits d'auteur. À qui profite-t-il? Réponse dans un instant.
Affaires classées. Podcast ICI.
En mars 1875, Marie Deluard, une jeune basquaise mariée à Joseph Ravel, un ingénieur né en Suisse, accouche à la maison Estebania, une imposante demeure au style hollandais qui rappelle le glorieux passé de Cibourg et sa voisine Corsaire. C'est ici que vient au monde un garçon prénommé Maurice, qui sera baptisé peu après à l'église Saint-Vincent. Le couple quitte rapidement la côte basque pour rejoindre la capitale où il emménage dans le quartier pittoresque de Montmartre, où l'enfant grandit au milieu de musiciens et d'artistes qui détermineront pour beaucoup sa future carrière. Maurice révèle très tôt des talents de mélomane. Ses parents n'hésitent donc pas une seconde à l'inscrire au sein de grandes écoles où il apprend aisément le solfège. À force de travail, de passion, Ravel devient un compositeur de renom dont la notoriété dépasse vite les frontières de la métropole. Il a 54 ans en septembre 1929, quand sa ville natale lui rend hommage en baptisant de son nom le quai où il est né. Peu avant, la danseuse et mécène Ida Rubinstein lui a passé une commande qui va bouleverser la suite de son existence. Elle recherche pour sa troupe un ballet d'inspiration hispanisante et songe sans hésiter à Ravel afin qu'il mette en musique Iberia d'Albéniz, l'une de ses œuvres préférées. Mais les droits d'auteur ne sont pas libres. Alors, le compositeur basque est pris d'angoisse. Il n'a que 3 mois pour composer un ballet que l'on veut inédit, fulgurant, et dont la première est programmée à l'Opéra Garnier de Paris le 22 novembre 1928. Ravel se met au travail à la vitesse de l'éclair. Il compose un thème arabisant de 16 mesures, soit 2 mélodies uniques répétées chacune à 9 reprises dans un immense crescendo orchestral rythmé sur un air donné par un ostinato rythmique imperturbable. Ça y est, le boléro est né. L'œuvre est révolutionnaire pour l'époque car Ravel s'éloigne de la musique occidentale moderne et surtout, sa création fait appel à des sonorités nouvelles comme le saxophone.
Affaires classées avec Thierry Sagardoito.
Dans ses notes ultimes, le boléro donne l'image de s'effondrer sur lui-même comme un château de cartes. Nous sommes un an avant la crise économique mondiale de 1929. Ravel pressent-il les incertitudes de ce fragile entre-deux-guerres à l'avenir si sombre? Le crescendo du boléro vaudra en tout cas de l'or. Au soir du 22 novembre 1928, le public se bouscule dans les couloirs et travées du Théâtre National de l'Opéra, au cœur du rutilant Palais Garnier, dans le 9e arrondissement de la capitale. Sous la baguette de Walter Straham, l'orchestre et les ballets d'Ida Rubinstein émerveillent le public dès la première. La critique parisienne vante sa somptuosité quand Le Figaro souligne, je cite, « les dons singuliers de Ravel » pour cet opus décrit comme puissant, coloré et lancinant. Mais si le public se régale de ce délice d'élégance, Ravel brille par son absence. Oh, non pas qu'il s'en désintéresse, mais le même soir, il donne un concert à l'ambassade de France, à Madrid, en l'honneur de l'inauguration de la Casa de Velázquez. Il est de retour à Paris pour la quatrième et dernière représentation au soir du 4 décembre. Le Boléro prend ensuite la route des plus grandes scènes de la planète. Milan, Vienne, New York, Monte Carlo. C'est un triomphe. De son chef-d'œuvre, Ravel dit humblement « Le Boléro, il est vide de musique. » Traduisez, ce ballet composé en moins de 3 mois utilise l'orchestre comme un laboratoire instrumental, mais il s'inscrit à contre-courant de la musique du moment. Célébré partout à travers le monde, il profite pourtant peu de sa soudaine fortune. Ravel vit reclus, en solitaire, au sein de sa maison de Montfort-l'Amaury dans les Yvelines, où il s'éteint 9 ans plus tard, le 28 décembre 1937, des suites d'une maladie cérébrale mal soignée. Ravel n'a aucun héritier. Et tandis que le Boléro poursuit son ascension vertigineuse, débute alors une extraordinaire saga judiciaire autour des droits d'auteur que génèrent les 17 minutes de l'œuvre musicale la plus écoutée sur la planète depuis bien longtemps.
Affaires classées, un podcast ici Béarn Bigorre.
En France, le Boléro restera hissé à la première place du classement mondial des droits de la SACEM jusqu'en 1993. Chaque année, l'indémodable valse rapporte ainsi l'équivalent d'1,5 million d'euros dans les caisses de l'organisme français chargé de collecter les droits d'auteur. Un pactole qui va exciter la gourmandise de certains. À sa disparition, Ravel n'avait laissé aucun testament et c'est donc son frère cadet, Édouard, un industriel installé à Saint-Jean-de-Luz qui devient légalement l'héritier de l'œuvre. Il crée la fondation Maurice Ravel qui transforme son ancienne demeure, appelée le Belvédère, en un musée à sa gloire. Sage précaution. Mais en 1954, Édouard et son épouse sont victimes d'un grave accident de la route alors qu'ils se rendent à Lourdes. Le couple en ressort extrêmement diminué. Édouard fait la connaissance de Jeanne Taverne, une vendeuse de colibris de 48 ans qu'il embauche en qualité de masseuse. Mais 2 ans plus tard, Angèle, son épouse, décède des suites de l'accident. C'est Jeanne qui devient la gouvernante de maison. Mariée à Alexandre, un ancien mineur devenu chauffeur, elle s'installe dans la villa lusienne de son patron. Un dévouement sans doute intéressé, car Jeanne sait qu'Édouard Ravel est devenu immensément riche grâce à l'héritage de Maurice. Sa santé décline. Alors, que faire d'un tel magot ? Veuf, Édouard Ravel songe à mettre Jeanne, la gouvernante, et Alexandre, l'époux improvisé chauffeur, à l'abri du besoin, en leur cédant sa villa lusienne. Mais en 1958, l'Opéra Garnier organise un gala qui célèbre les 20 ans de la disparition du père du Boléro. Durant ce séjour dans la capitale, Édouard change d'avis. Il promet de céder à la ville de Paris 80% des droits d'auteur de son frère afin de créer un prix Nobel de musique. Quand il revient au Pays Basque, la gouvernante apprend la nouvelle. « Mais vous n'y pensez pas, monsieur » lance-t-elle, furieuse et surtout inquiète de voir ce magot s'évaporer ailleurs. Fragile de santé, Édouard Ravel va donc changer d'avis.
Affaires classées avec Thierry Sagardoito.
Comme par enchantement, Jeanne Taverne devient sa légataire universelle. En attendant le décès du vieil homme, la bonne dame ne tient plus en place à l'idée de devenir un jour immensément riche. Mais il y a un hic. Jeanne devra d'abord acquitter de colossaux droits de succession. Une idée machiavélique germe dans sa tête. Jeanne pourrait se marier avec Édouard Ravel afin de diminuer l'addition. De quoi rendre la veuve très joyeuse le jour de son décès. Mais il y a un obstacle. Jeanne est déjà mariée avec Alexandre. Il lui faudrait donc d'abord divorcer d'Alexandre, se dépêcher de passer la bague au doigt de son patron avant qu'il ne décède. Jeanne se précipite chez un avocat bayonnais. Elle veut divorcer séance tenante. Quelques mois plus tard, et alors qu'Édouard Ravel, 81 ans, s'apprête à prendre la main de sa gouvernante, il décède une semaine avant le mariage. Patatras ! Sitôt Édouard inhumé, Jeanne et Alexandre Taverne vont aussitôt se remarier devant monsieur le maire de la cité lusienne. Jeanne n'est certes pas la veuve d'Édouard, mais elle est en tout cas sa légataire universelle. Malgré le joli chèque qu'elle doit signer au percepteur au titre des droits successoraux, elle hérite d'un fort joli pactole. Mais sur la côte basque, nul n'est dupe. Le couple Taverne est prêt à tout pour faire main basse sur l'héritage des droits d'auteur du célèbre Boléro. C'est alors qu'entrent en scène les époux Marc et Marcel Perrin. Ces deux lointains cousins de Maurice Ravel arrivent de Suisse. Ils sont donc héritiers naturels et ils vont réclamer leur part du gâteau en lançant un procès au tribunal de Bayonne contre les époux Taverne. Ils les accusent, je cite, de captation d'héritage. De recours en recours, l'instance durera 10 longues années. Mais, faute de démontrer qu'Édouard Ravel était sous la coupe de sa gouvernante, la justice les déboute. Pour les époux Taverne, c'est maintenant le rêve. Ils sont millionnaires et ils vont s'offrir enfin la luxueuse villa de leur rêve à Biarritz. Une villa qu'ils baptiseront le Belvédère, en hommage à celle qu'occupait Maurice Ravel dans les Yvelines lors de sa disparition.
Affaires classées, un podcast ici Béarn Bigorre.
Le couple Taverne mène grand train, s'offrant de belles voitures, des chevaux de course. Ils vont malgré tout se donner bonne conscience en improvisant un musée Ravel au Pays Basque. Il sera inauguré en grande pompe sous les clichés de la presse locale avec des textes, des partitions, des objets personnels de feu Maurice Ravel. Jeanne Taverne décède en 1964 et c'est donc son époux Alexandre qui va hériter. Il pose en photo avec la canne à pommeau d'or du compositeur disparu. Héritant de 48,6 millions d'euros de droits d'auteur, il épouse à présent Georgette, une pétillante manucure teintant blonde, native de Biarritz et qui s'installe à son tour au Belvédère. La fortune, c'est bien, mais la gérer intelligemment, c'est mieux. Entre alors en scène Jean-Jacques Lemoine, qui n'est autre que l'ancien directeur juridique de la SACEM. Le dossier Ravel, il le connaît sur le bout des doigts. Alléché par la cagnotte du Boléro, il prend sa retraite de la SACEM et devient avocat au barreau de Paris, mais surtout l'homme de confiance de l'ex-coiffeur devenu l'héritier de Maurice Ravel. Lemoine regorge d'idées. Afin de fructifier le magot, il crée une société offshore où il planque les droits d'auteur au soleil des îles Vanuatu et dans une pléiade de comptes anonymes au Panama, à Gibraltar ou aux îles Vierges. La valse des millions d'euros se poursuit, à l'image de l'enivrant crescendo du Boléro. Fuyant la France et ses impôts, Alexandre et Georgette s'exilent à Monaco. Alexandre Taverne décède en 1973, laissant sa moitié pour héritière. Un demi-siècle après sa création, le Boléro s'impose comme l'un des totems de la musique française. Les droits d'auteur donne le vertige. 1 500 000 euros par an, dont 80% proviennent des États-Unis. En France, la manne de ces droits d'auteur s'est tarie en mai 2016, depuis l'entrée du Boléro dans le domaine public. Son increvable succès en fait un monument du patrimoine musical français dont les droits d'auteur auront profité à une savoureuse brochette de personnages. Une masseuse, un coiffeur, une manucure, un avocat. Et pourtant, à ce jour, aucun d'eux n'habite en France.
Affaires classées. Un podcast ici.
Boléro et son interminable valse des millions, c'était l'épisode de ce jour dans le podcast. Dans un prochain numéro, nous irons très très loin dans le temps, 7 siècles en arrière, à la rencontre de Gaston Phébus. Vous savez de lui qu'il fut un puissant comte du Béarn. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'un jour, il faillit échapper à un empoisonnement dans son château. Qui voulait donc sa disparition? La réponse est peut-être du côté de la province basque de Navarre. Le sanglant secret de la Tour Moncade, c'est notre prochain numéro dans Affaires classées, le podcast. À bientôt.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici mène.
C'est un communicant, animateur, organisateur d'événements, chef d'entreprise aussi, Jean-Christophe Camus, bonjour.
Bonjour Bruno.
C'est vrai que pour qui ne vous connaît pas et qui vous demande c'est quoi votre métier monsieur, spontanément vous répondez quoi?
Ben, j'arrive pas à répondre spontanément, c'est pas facile. Je dis que je suis un animateur qui a glissé dans l'événementiel.
Voilà. Très bien. Vous avez quel âge?
J'ai 46 ans aujourd'hui.
Vous avez commencé comment?
J'ai commencé en stage à Canal 8, c'est-à-dire l'antenne qui était avant LMTV, puisque j'ai fait une formation moi comme réalisateur audiovisuel dans une école à Rennes.
Vous avez quel âge?
46 ans.
Vous êtes Manceau, Sartois de naissance?
Ah oui, né au Mans, élevé au Grain et Auriette.
Ça a été une vocation née très tôt en vous et chez vous, devenir quelque part un troublion, d'être devant des micros, des caméras?
Oui, en fait, moi, je commençais par vouloir faire des films à 15 ans au Caméra Club du Mans, qui était un club local, avec beaucoup de retraités, d'ailleurs, qui m'ont pris sur leur aile et qui m'ont appris à filmer. Et c'est ce qui m'a donné envie, un petit peu plus tard, au moment des études supérieures, de me lancer vraiment là-dedans. Mais au début, j'étais fait pour être derrière la caméra. Mmh. Et en raison d'une proposition de Pascal Brulon, à l'époque, je suis passé devant.
Alors, Jean-Christophe Camus, pour aller prendre quelques repères à l'occasion de la Foire du Mans, notamment toute l'animation autour des super-héros, c'est vous. Et puis, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a un festival, le Geek Festival qui vous colle à la peau, vous en êtes le créateur?
Exactement, oui, le Geek Life Festival créé en 2019 au Mans et qui aujourd'hui est dans 4 villes en France. Voilà, c'est une fierté, modeste mais fierté quand même.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Geek Life Festival, en effet, dans l'esprit, c'est quoi?
Eh bien, c'est un rendez-vous de la pop culture, du jeu vidéo et puis de tous ceux qui aiment les cultures asiatiques, le Japon et la Corée notamment, qui ont un grand succès actuellement.
Dans 5 ans, vous voyez comment?
Dans 5 ans, ben, je ne sais pas moi, quelques villes de plus et puis un nouveau projet. On va proposer un salon qui va tourner autour de la famille, qui s'appellera le Salon Family. Ouais. Donc voilà, je continue dans cette lancée.
Une passion dévorante chez vous, même si là vous avez dit déjà beaucoup de choses.
Moi j'ai une passion pour l'histoire vidéoludique, j'ai participé à des livres, j'ai écrit, et donc c'est vraiment ce qui m'anime, c'est-à-dire l'histoire de ces vieilles consoles qui ont évolué et pour devenir aujourd'hui le loisir principal des Français aujourd'hui.
Vous êtes effectivement enfant du pays, vous l'avez dit. Les bonnes raisons d'aimer le Mans et la Sarthe, selon vous, c'est quoi?
Alors, on est extrêmement bien placé. La campagne sartoise est magnifique. La ville du Mans est belle, pratique. J'ai vu beaucoup de gens arriver au Mans et être très heureux d'y rester. Moi, je suis très heureux d'y rester aussi.
Dernière question. Vous pouvez être un super-héros. Votre choix, c'est de vous incarner en...
Ah, m'incarner quoi? Oh là là, oh, c'est compliqué ça. En super-héros, un grand classique, je suis Superman, parce que je ne pourrais pas le faire dans la vraie vie.
Je m'attendais à cette réponse. Merci beaucoup, Jean-Christophe Camus.
Merci Bruno.
À très bientôt et je vous confirme. La Cap Rouge vous va bien.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici, Berry.
Hé, hey, il y a un Parisien en vacances chez la Marie. On pourrait l'emmener à la chasse au Dahut, tu que t'en dis.
En Périchon, dans le texte.
Il y a des panneaux routiers. Attention, traversée de Dahut. Avignon, puis amène tout salon. Ah, il n'y en a pas en Champagne-Berrichon, non. Bah, c'est trop plat. Ben oui, le Dahut, c'est un bestiau qui a 2 pattes plus courtes que les 2 autres. Puis quoi, ils sont du même côté, il peut tenir de bouc sur un terrain pentu. Si c'est les pattes de droite qui sont plus courtes, le Dahut, sur une colline, il tourne en rond dans le sens des aiguilles d'une montre. Des fois, il croise des Dahuts aux pattes de gauche plus courtes. qui tombe dans l'autre sens. Mais imaginez une idylle entre les deux espèces qui pourrait donner naissance à un dahu aux quatre pattes pareilles, ça t'importe beaucoup. Voici une histoire inspirée d'un récit de Georges Champeau. Quand il y avait chez nous un vacancier, quand il avait pas l'air ben trop futé, on l'a mignaudait. Quand il était ben ferré, on y faisait la faveur de l'inviter à chasser le dahu en quenou. Nous autres, on préparait une muse dans une bouchetue ou qu'on récartait une crotte de lapin pour faire puvrer. Le grand soir, à la tombée de nuit, on emmenait nous de gars devant le passage en clé crotte, puis on y donnait un sac en toile gardé ouvert par un liant de poinçon. On allumait une bougie devant la muse, puis on le faisait coucher le gars sur les crottes de lapin. L'ouverture du sac, ben perpendiculaire au sol, juste devant le trou. Après y avoir dit d'être ben patient, on s'en allait pour faire les rabatteux, ceux qui allaient y ramener le dahu vers sa bougie. Au bout d'une coupe d'heure, même s'il t'est pas ben malin, nous de gars, il comprenait qu'on s'était foutu de lui. Puis, il rentrait au village. Et puis, comme il se vantait pas de son aventure, eh ben, on pouvait recommencer.
Ici. Vous écoutez Ici.
We will find a possible to tame.
Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast Ici Cotentin.
En fait, les animaux, c'est à peu près comme nous. Quand on met trop fort, et ben, ça peut leur casser le tympan. Bah, ça dépend des animaux.
Par exemple, les poulains, ça aime bien la musique pour un peu s'endormir.
Je pense que les cerfs, ça aime la musique de la flûte. Parce que quand j'ai fait de la flûte, il y avait un cerf qui venait.
Le perroquet, bah, je pense qu'il aime bien les musiques où on répète les choses.
Bah, les musiques à refrain et les musiques où, par exemple, il y a quelqu'un qui dit un mot. Et il y a un autre groupe qui dit un mot.
J'ai un chat, mais il a plutôt peur de l'enceinte. Et il a peur du son quand c'est trop fort. Quand le son est à 3 bars, il peut passer à côté de l'enceinte et il a rien. Il a juste ses oreilles qui se tournent vers l'enceinte. Et si on hausse le son, bah après il se met à courir partout et il est excité.
En fait, je pense que si tu faisais un faux chat en carton avec avec un enceinte, tu mets des sons de miaou, et ben je pense qu'il dirait, il viendrait voir le chat et il ferait une fausse bagarre vu qu'il est en carton.
En fait, les animaux, c'est à peu près comme nous. Quand on met trop fort, et ben, ça peut leur casser le tympan. Je sais pas si c'est ça, mais je pense que la forme des oreilles, et ben, ça différencie les chats, les animaux domestiques, ils aiment bien la musique douce. Il y a à peu près tous les animaux qui aiment bien la musique douce, parce que la musique pas douce, et ben, ils aiment pas trop ça.
Mais ça veut dire quoi, miaou?
Quand un chat le dit fort une fois, c'est pour dire au secours. Quand ils le font plusieurs fois, c'est plutôt pour essayer d'expliquer j'ai besoin de quelque chose. Et quand il râle, il fait ça pendant longtemps. C'est ce qui énerve un peu l'humain. Par exemple, il monte sur le canapé et que l'humain, lui, il dit « Mais descends !» Il va le faire plus qu'une fois et tout ça.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici au Cerf.
Savez-vous qu'il existe un champ d'olivier italien de taille modeste sur la commune de Malissard? C'est une idée de Claudine, une envie forte de retrouver ses racines, un véritable challenge car elle a tout laissé tomber pour à terme produire une huile d'olive gourmande au goût fruité vert et intense.
Pour moi, c'est un petit rêve que j'avais en tête. Je souhaitais implanter une oliveraie sur Malissard, mais arriver à la retraite tranquille, faire quelque chose de pour moi, simplement. Et en fait, le travail que je... Enfin, voilà, j'étais salariée et la vie en a décidé autrement. J'ai quitté mon emploi et j'ai décidé, du coup, de me lancer dans l'activité tout de suite.
Parce que cette variété d'olives a marqué ton enfance?
Tout à fait. Le village familial... Mes parents ont grandi dans un village au sud de Rome, entre Rome et Naples, en Italie. Ce village qui s'appelle Itri, où est cultivée l'olive Itrana, la variété Itrana, et qui donne une qualité extraordinaire d'huile d'olive, avec beaucoup de polyphénols, antioxydants, des vitamines, enfin, c'est vraiment une merveille.
C'est une petite Madeleine de Proust, ce goût.
Oui, tout à fait, ça a béni mon enfance. Donc moi, la première fois que je suis allée en Italie, j'avais 2 mois, et après j'y suis allée tous les étés, donc c'était les vacances, les congés de papa, et on allait tous les étés là-bas. Donc j'ai baigné là-dedans depuis toujours, en fait. Et arrivé à un moment, j'ai décidé de me lancer et de développer ici cette huile d'olive. Donc, pour l'instant, les oliviers sont tout jeunes. Ils ont été plantés en mars de cette année. D'ici 2-3 ans, je pense que j'aurai un début de production.
Et là, ça y est, on est au milieu du champ, on est au milieu d'un rêve qui se concrétise.
Ouais, tout à fait. C'était un gros travail quand même, hein, l'installation de ces oliviers. Ça s'est pas fait comme ça. Hein. Donc, la plantation, préparation du sol, trouver le terrain déjà à l'origine, mais ça, c'était vraiment compliqué. Hein. Mais j'y suis allée petit à petit, même si ça s'est fait quand même rapidement, hein, parce que ça fait une année que je suis vraiment sur ce projet et de le concrétiser. Et en fait, je pense que les gens me disaient, ouais, c'est chouette, mais en fait, je suis pas sûre qu'ils y croyaient vraiment. Mais gentiment, ils trouvaient ça joli. Même ma maman qui me disait mais toi, t'es toujours avec tes olives. Enfin, elle pensait pas. J'étais quand même dans une activité salariée, voilà. Et en fait, moi, je suis en train de vivre une aventure extraordinaire. Je suis vraiment heureuse de faire ça. Et là, je vois toute la fierté dans les yeux de mes parents maintenant aujourd'hui.
Ce qui t'anime au fond, c'est plus l'envie de partager que d'en vivre. On est d'accord.
Oui, tout à fait, parce que c'est une petite production en fait que je mets en place. Financièrement, je ne pourrais pas me sortir un salaire avec cette production. Après, il faudrait que je puisse planter d'autres oliviers, une quantité plus importante, m'équiper en matériel agricole, tout ça. C'est pour l'instant, j'y suis pas. Je fais intervenir les exploitants agricoles pour m'aider sur le travail du sol, voilà. Par contre, les oliviers, c'est moi qui m'en occupe.
On s'en doutait un tout petit peu. Pour le moment, Claudine se forme et transforme ses fameuses olives Vitrana directement en Italie auprès d'un oléiculteur du village de sa maman. Elle a rapporté quelques bouteilles qu'elle appelait Nostrolio, qui signifie notre table, que vous pouvez découvrir sur le marché de Malissard, entre autres.
Ici, actu locale, musique et bonne humeur.
La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence, et le rideau sur l'écran est tombé. C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé.
La nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici de Romardèche.
Bonjour Daphné Michelin.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On vous pose des questions tous les matins sur le patrimoine et la Drôme Ardèche. Aujourd'hui, on parle d'un trésor mondial, mais très local. Pourquoi, Daphné Michelin, cette grotte mondialement connue s'appelle Chauvet? C'est un nom d'artiste?
Pas du tout, Philippe. En fait, si la grotte Chauvet porte ce nom, c'est simplement parce que l'un de ses découvreurs ou de ses inventeurs, eh bien, s'appelait
Jean-Marie Chauvet, un agent du ministère de la Culture passionné de spéléologie. Avec ses deux amis, Eliette Brunel et Christian Hilaire, eh bien, ils ont exploré un recoin du cirque d'Estre près de Vallon-Pont-d'Arc en décembre 1994.
Donc, il a mis son nom dessus.
Alors, c'est pas lui qui l'a baptisé, en fait. Le nom Chauvet s'est imposé très vite dans les médias et dans les milieux scientifiques. Car c'était la première personne citée dans les premiers rapports. C'est un usage courant, d'ailleurs, dans l'exploration. Le nom du premier déclarant reste.
J'imagine la jalousie, enfin, je sais pas. La grotte aurait pu s'appeler Brunel ou Hilaire, non ?
Alors, exactement. On aurait pu l'appeler la grotte Brunel ou même la grotte des trois amis. Mais Chauvet, c'est resté, en fait. Ce qui compte, c'est surtout ce qu'elle contient. Des peintures vieilles de 36 000 ans, lions, rhinocéros, chevaux, mammouths, même un hibou. C'est l'un des plus vieux chefs-d'œuvre de l'humanité.
Comment ont-ils su que c'était si ancien au moment où ils l'ont découverte ?
Ça, c'est la science. Non, c'est un petit peu après. C'est après qu'on a su avec la datation au carbone 14. Et puis, l'étude des couches géologiques. Et puis, eh bien, finalement, tout concordait. Et ce bestiaire a été peint à l'époque de l'Homo sapiens. Il a environ 36 000 ans. Et tout ça est resté intact, scellé par un éboulement pendant des millénaires.
Et c'est pour ça.
Et aujourd'hui, la grotte Chauvet 2 permet à tous, eh bien, de découvrir ce trésor sans endommager l'original. Un hommage à la fois aux artistes d'il y a 36 000 ans et aux découvreurs d'aujourd'hui.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast Ici Limousin.
Marsalon Emmanuel, tailleur de pierre et sculpteur en Corrèze.
Les Limousins sont formidables. Stéphane Pigato.
Mon père n'était pas du tout là-dedans, ma mère non plus, mais par contre autour de moi, il y avait beaucoup de tailleurs de pierre italiens, et surtout un énorme support historique qui était les maçons de la Creuse et Martin Nadeau, qui a dit cette fameuse phrase « quand le bâtiment va, tout va ». Quand à 10 ans, je voyais ces Italiens prendre des blocs de pierre qui sortaient de je ne sais où, de certaines carrières, des fois des boules qu'il y avait dans les bois, dans les champs, et d'en sortir des formes qui étaient assez sommaires en Creuse. On ne parle pas d'architecture très développée, ni de gothique, ni de... Pour moi, c'était assez exceptionnel.
Ça vous a fasciné tout de suite, vraiment ?
En plus de tout ça, ils étaient très très joyeux, en fait. Donc moi, gamin, je voyais des gars qui travaillaient dur, parce que c'est très dur, mais qui étaient heureux de vivre. Et plus je découvrais ce métier, plus je me suis aperçu que c'était absolument fascinant comme métier, et ça s'arrête jamais. Et aujourd'hui, j'ai 52 ans, je suis toujours dedans, et je suis toujours heureux de faire ce que je fais.
Quel a été le déclic du changement ? Pourquoi être arrivé, et comment vous êtes arrivé en Corrèze ?
En Creuse, vous avez l'école de Feltin, qui possédait un CAP BEP tailleur de pierre. Donc j'ai fait ma formation là-bas. Suite à ça, je suis parti à Paris. On passait par l'école Boulle, et vous préparez au concours de meilleur ouvrier de France. Donc voilà. Après, je suis parti, j'ai eu la chance de pouvoir partir en Italie. J'ai passé une quinzaine d'années de formation un peu partout. Je suis parti en Égypte, je suis parti à Barcelone sur la Sagrada Familia, et retour en France, le Mont-Saint-Michel, la Carcassonne, enfin des édifices absolument magnifiques.
Vous nous parlez de la Sagrada Familia, du Mont-Saint-Michel, on peut parler de Notre-Dame aussi. Est-ce que vous pensiez arriver à un tel niveau, en fait, dans votre carrière professionnelle ?
Globalement, non. Ça n'a jamais été un but en soi. C'était plutôt de l'enrichissement personnel. En fait, je m'aperçois, plus personnellement on essaye de développer ce qu'on aime, plus on va s'améliorer, ça vient tout seul, en fait.
Et qu'est-ce qu'on ressent quand on doit faire des pierres pour ce genre de monument historique dans le monde entier ?
À 10 ans, quand j'ai taillé mon premier cube, j'étais aussi fier. En fait, je suis émerveillé par ce que les gens peuvent faire. Je pense que mes enfants sont plus fiers de moi que moi de moi-même.
Si le petit Emmanuel n'était pas né en Creuse, à côté de ces fameuses carrières dont
ça aurait été très dur.
Qu'est-ce que vous auriez fait de votre vie, Emmanuel ?
Je suis à 100% de cailloux, moi. Je suis 100%, je ne peux pas m'imaginer sans ça. Donc, c'est une bonne question, mais j'aurais peut-être plutôt dans l'alimentaire. Parce que j'aime beaucoup manger et je suis passionné par le vin.
Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui dans le métier de tailleur de pierre ?
Alors, c'est des métiers très durs, très physiques, mais énormément de satisfaction, de plaisir, et aujourd'hui on en vit. C'est vrai, quand vous passez le long de la route là où je suis situé, j'ai l'impression de dire, qu'est-ce que c'est encore, c'est germinal. Si quelqu'un est intéressé par ça, je lui dirais, mais il n'y a aucun problème, mais va au bout des choses. Tu vas avoir des moments qui vont être durs, tu vas être rincé, mais va au bout des choses et tu seras toujours heureux de ce que tu vas faire.
C'est le plus beau métier du monde.
Incontestablement, c'est le plus beau métier du monde.
Vous n'en changeriez pour rien.
À jamais de la vie.
Les Limousins sont formidables à réécouter sur l'appli Ici.
ici.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Dès l'enfance, on connaît son destin. Lionel Terrain est à Grenoble le 25 juillet 1921. Sa famille, aisée, envisage pour lui un futur bourgeois, alors que lui n'a déjà que la montagne en tête. À 3 ans, il chausse les skis. À 5 ans, il cherche à escalader tout ce qu'il croise. Durant sa jeunesse, le grenoblois sèche régulièrement l'école pour aller crapahuter en montagne. Son déménagement à Chamonix pour accompagner son père malade ne va pas arranger les choses. À seulement 12 ans, il devient chef de cordée pour la première fois. Parallèlement, il se lance dans les sports de glisse et se taille en grandissant un petit palmarès, notamment en combiné descente slalom.
Ça c'est mes skis, ils ont fait deuxième à Grand-Montana, c'est ce qu'il a. Bon, j'ai une pêche les gars, wouh !
Nous sommes alors en 1941, la future légende de l'alpinisme rentre à la formation Jeunesse et Montagne, ancêtre de l'UCPA. En plus de vivre pleinement sa passion, c'est là qu'il va rencontrer l'un de ses futurs grands amis, Gaston Rébuffat. C'est une nouvelle conception de la montagne que Lionel Terray découvre. Rébuffat, en avance sur son temps, anticipe déjà les ascensions de grands sommets. Pendant plusieurs années, les deux hommes alterneront expéditions en montagne et travaillent dans la ferme de Lionel. Leur coopération prendra une pause à la fin de la guerre. Lionel Terray entre dans la résistance où il intègre la mythique compagnie Stéphane.
Et bonjour !
Un groupe spécialisé dans le combat en montagne, encadré par les meilleurs alpinistes du moment. Leurs actions durant le conflit deviendront d'ailleurs une référence au domaine de la guérilla.
C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp.
Après la guerre, la libération pour Lionel Terray, elle est autant politique que professionnelle. Il se lance définitivement et complètement dans l'alpinisme. Instructeur à l'école de haute montagne, moniteur de ski, puis guide de haute montagne, il aspire à protéger ce qu'il y a de plus important pour lui, sa liberté.
Belle activité, beau projet.
Il s'associe à cette époque à celui qu'il découvre lors d'une ascension et qui ne le lâchera plus, Louis Lachenal. Alliance de l'audace de Lachenal et de la réflexion de Terray, intérêt, le duo démarre une des plus grandes épopées de l'ascension des Alpes.
Je vais faire le maximum, je me lance, je suis prêt.
Cette cordée mythique enchaîne les performances et les records. La face nord des Grandes Jorasses, l'éperon nord des droites, la terrible face nord de Lager en Suisse qui leur prend seulement 2 jours.
Plus que quelques kilomètres et bientôt nous serons dans une bonne auberge.
Après ce dernier exploit, il est alors temps pour le duo de fusée alpine de se tourner vers un autre défi. Direction l'Himalaya. Il participe à la seconde expédition pour tenter de monter au sommet de l'Annapurna, soit la première fois qu'un homme marcherait au-dessus de 8000 mètres. L'expédition est un succès. Si Herzog et Lachenal sont les seuls à atteindre le sommet, Lionel Terray jouera un rôle considérable de soutien, notamment en portant son ami qui avait les pieds gelés pendant la descente du sommet. Les Français rentrent à Orly et sont accueillis en héros.
J'avais des papillons dans le ventre, c'est comme ça.
Pendant les 14 années qui suivront, Lionel Terray continuera de réaliser des exploits. Que les sommets impossibles soient dans les Andes ou dans l'Himalaya, il laissera sa marque dans l'histoire de l'alpinisme.
Ce Lascar est une légende comme le grand Manitou.
Et quel que soit l'altitude ou l'expérience, le danger est toujours là. Le 19 septembre 1965, dans le Vercors, Lionel Terray chute avec un ami lors de l'ascension des arêtes du Gerbier. Leurs corps sont retrouvés quelques jours plus tard. Le monde de l'alpinisme se rendra à Chamonix, où le Grenoblois sera inhumé pour lui rendre hommage. Lionel Terray, l'un des plus grands alpinistes de l'histoire, est un Isérois, illustre Isérois.
Vous écoutez Ici.
Comme moi, à la route infinie, il y a un genre comme...